bonsoir et bienvenue une fois de plus aux habitants de Bounia dans cette salle de conférence de la Monisco à Bounia. La province de l'Ituri est une sorte de carrefour suite à sa proximité avec l'Ouganda et la province du Nord Kivu. Les échanges commerciaux y sont intenses. C'est aussi une province à vocation agricole et minière. Mais l'activité économique est presque paralysée à cause de la persistance de l'insécurité. Quelle analyse vous faites de la situation socio-économique de l'Ituri et comment faire pour booster cette économie? C'est l'objet de cette émission, cette spéciale émission Dialogue en Congolais sur l'Ituri qui s'est produit à Bounia avec la population de Bounia. Et on voudrait savoir si Bounia est toujours vivant ici. Bounia, manifestez-vous! Et donc nous avons la participation de vous, n'est-ce pas, les habitants de Bounia dans cette émission, mais aussi nous avons la participation de Steve Senghida, il est directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, en charge de l'économie et finances. Bonsoir Monsieur Steve Senghida.
Bonsoir Monsieur Dimapi, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kabi.
Lucien Mouliri, il est chef de travaux et conseiller à la Fédération des entreprises de l'Ituri, FEC Ituri. Lucien Mouliri, bonsoir.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les amis et à tous les invités de la radio Okapi.
Et Janvier Bin Ekwale, il est président des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Bonsoir Monsieur Janvier Bin Ekwale.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous allons commencer avec vous Monsieur Lucien Mouliri. Vous êtes chef des travaux et conseiller à la Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri. La situation socio-économique de l'Ituri, comment vous l'analysez?
Merci Guy Maté pour m'avoir accordé la parole. La situation économique de l'Ituri n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, pourquoi? Parce que vous savez que lorsque les armes parlent, les hommes se taisent et les travailleurs s'en trouvent affectés. Et du coup, il se dégage que quand il y a insécurité, alors que nous sommes une économie extravertie, c'est-à-dire que nous faisons les commerces avec les pays limitrophes, notamment l'Ouganda, le Kenya et les autres pays, quand il y a insécurité, il y a un problème de mobilité, un problème d'entrée de marchandises, et du coup, sur le plan économique, ça a un impact négatif parce que nous sommes une économie extravertie et vous savez que dans les systèmes des pays sous-développés, ce sont des impôts indirects, notamment les importations, par les trichements de la douane, les différents impôts qu'on y paye, qui essaient de booster l'économie du pays à travers les différentes taxes et les impôts que l'on paye. Et aussi, en dehors de cela, il faut noter qu'avec l'insécurité, pratiquement il y a beaucoup de gens, les habitants de l'intérieur ont quitté. Ils sont tous concentrés dans des camps de déplacés et c'est des habitants qui avaient chacun peut-être un travail, ils faisaient les champs, ils avaient des activités, mais toutes ces activités-là sont paralysées et du coup, l'économie ne doit que suivre la même courbe.
Voilà, donc il y a ces facteurs d'insécurité, il y a le fait que l'économie soit extravertie, mais aussi il est dit que les routes stratégiques sont impraticables, il y a même l'axe d'approvisionnement des denrées alimentaires à Rumahagi qui s'est considérablement détérioré. Et, Monsieur Lucien Mouliri, dans quelles conditions les opérateurs économiques travaillent ici à Bounia?
Les opérateurs économiques travaillent dans des conditions très très difficiles. Très difficiles parce que lorsqu'il n'y a pas de routes, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, c'est compliqué. Et lorsque les véhicules transportant des marchandises sont aussi la cible pendant qu'il n'y a pas de route, la situation est catastrophique. Donc il faut clairement dire que nous les opérateurs économiques, nous travaillons parce que nous aimons notre pays. Nous nous disons que personne d'autre ne viendra faire ce que nous on a à faire pour le pays. Nous nous disons qu'il nous faut absolument travailler pour ça. Parce que si vous faites une observation aujourd'hui, vous remarquerez que Bounia est enclavée. On ne peut pas partir de Bounia jusqu'à Mungwalu, la route est quasi inexistante. On ne sait pas partir de Bounia jusqu'à Kisangani, il n'y a pas de route. On ne peut pas partir d'ici jusqu'à Mahagi, c'est compliqué. Quitter Bounia jusqu'à Mahagi, s'il a plu, vous devez prendre au moins une semaine. Et là, c'est encore difficile. Donc l'ensemble de tout ça et les tableaux que nous vous présentons tout à l'heure vous met devant une situation telle que vous comprenez que le commerce en Ituri, c'est une casse-tête, c'est pas facile. Et comme si cela ne suffisait pas, sur les quelques importations des courageux qui arrivent ici à Bounia, il y a toute une suite, toute une mosaïque de taxes qui pleuvent, au point que finalement on ne sait plus à quel sens se vouer. Et malheureusement, parce que le malheur ne vient jamais seul, il y a aussi la pandémie de COVID-19 qui est arrivée, et finalement ça a mis tout en moule. Donc vous comprenez que c'est difficile, et nous avons logiquement besoin d'un appui pour pouvoir nous en sortir et aider les pays à se relever, sinon c'est la catastrophe.
Bounia enclavée, cependant, c'est une province à vocation agricole avec d'énormes potentialités. Et pourquoi toutes les denrées proviennent de l'Ouganda, viande, haricots et même les produits manufacturés? C'est vrai que vous avez parlé, n'est-ce pas, du caractère extraverti de l'économie de l'Ituri, mais il y a quand même des potentialités qui peuvent être exploitées. Pourquoi il n'y a pas d'efforts faits ici sur le plan interne pour essayer de voir si Bounia peut s'auto-suffire?
Oui, monsieur Guy Maté, il faut noter que Bounia, ou si vous voulez l'Ituri en tant que province, exploitée de manière optimale sur le plan agricole, la province de l'Ituri pouvait nourrir toute la République démocratique du Congo parce que c'est une province à vocation agricole, pastorale. Mais le vrai problème qu'il y a à Bounia, c'est quoi? C'est la persistance de l'insécurité. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui de très bonne foi quitte sa maison pour aller au champ et lorsqu'il est en train de travailler, brusquement il y a des assaillants qui apparaissent et qui les décapitent? Cette situation d'insécurité va alerter les autres qui finalement ne pourront plus faire la même démarche. Et voilà, au lieu de produire, il faut vider les villages, il faut fuir. Lorsque les champs ne peuvent plus être fréquentés, il est difficile de produire. Et si on ne sait pas produire, vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est la crise alimentaire et même sur tous les plans qui s'installent. Et donc, le vrai problème pour l'Ituri, c'est d'abord les problèmes sécuritaires. Si on règle les problèmes sécuritaires et qu'on encadre les gens ou si on les accompagne, il est possible que Bounia puisse produire et que Bounia puisse servir même les autres provinces en termes de production ou si vous voulez des produits agricoles.
Oui, Bounia c'est aussi une province à vocation minière. Qu'est devenue la Sokimo?
La Sokimo a ses problèmes. La Sokimo a ses problèmes. Je crois que la Sokimo avait besoin non seulement d'être encadrée, mais aussi la Sokimo avait besoin de travailler sur sa politique et de s'évaluer. S'évaluer pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que ça marchait, où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'étirer d'affaires et pour relever finalement cette entreprise qui autrefois était l'une des meilleures de la République, mais qui aujourd'hui se trouve être à genoux. Donc je crois qu'il y a absolument un travail de grande envergure qui a besoin d'être fait, un travail de profondeur au niveau de la Sokimo, pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que les différents fonds affectés à cette entreprise ou alloués à cette entreprise ont été utilisés. Est-ce qu'ils ont été gérés convenablement? Est-ce que les gestionnaires les font de façon orthodoxe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout un diagnostic pour qu'on puisse effectivement voir là où se trouvent les failles et c'est alors que par la suite pourront suivre certaines propositions en termes de thérapeutie.
Merci, Monsieur Janvier Bin Ekwale. Je rappelle que vous êtes président des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Vous êtes membre de la société civile l'Ituri, province à vocation agricole et minière. Elle a même des potentialités en hydrocarbures, n'est-ce pas, notamment dans les lacs Albert. Ces ressources font de l'Ituri, n'est-ce pas, une potentielle puissance économique. Est-ce que c'est toujours l'insécurité qui constitue le blocage ou il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été relevés ici?
Merci Guy Maté de cette question. Bien sûr, l'Ituri, jadis, c'était le grenier même de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était le district de l'Ituri, dans la République du Zaïre. Et l'Ituri produisait beaucoup. Et à cette époque-là, on appelait l'Ituri Bounia viande, c'est-à-dire Ituri viande. Actuellement, M. Guy Maté, nous avons un problème très sérieux à ce qui concerne l'insécurité. Et quand il y a l'insécurité, rien ne peut marcher. Raison pour laquelle l'Ituri, c'est une province agro-pastorale. C'est-à-dire, l'activité principale de la province de l'Ituri, c'est d'abord l'agriculture. Nous avons l'élevage. Et puis nous avons le lac Albert qui est à côté de nous, que les Ituriens pratiquent la pêche. Et aujourd'hui, il y a aussi les commerces.
Voilà, vous avez dit que avant l'on parlait des Ituri viande. En fait, lorsqu'on vous suit tous, vous semblez attribuer tout, n'est-ce pas, à l'insécurité. Mais est-ce qu'avant la guerre de 96, parce qu'en fait la situation a commencé à se détériorer, la situation sécuritaire en 1996, est-ce que la situation économique de l'Ituri était meilleure qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des routes qui étaient praticables? Est-ce qu'il y avait des entreprises, n'est-ce pas, qui fonctionnaient normalement? Et que produisait l'Ituri à l'époque? Parce que vous avez qualifié l'Ituri, Ituri viande de l'époque. Qu'est-ce que l'Ituri produisait à part la viande? En fait, comment était, n'est-ce pas, l'activité économique de l'Ituri à l'époque?
À l'époque, l'Ituri produisait de l'or à travers la société de Kilomoto. Et l'Ituri produisait des nourritures. Et la région qui est connue, qui produisait la nourriture, c'était le territoire de Ndjoug, qui est aujourd'hui presque effacé sur la carte de la province de l'Ituri. Et en Ndjoug, il y a un lieu qu'on appelle Kpandruma. Kpandruma produisait des pommes de terre. Kpandruma produisait des oignons. Tout était vraiment au top à cette époque-là. Mais contrairement actuellement, à cause de l'insécurité, tout est devenu dans le chaos. Parce que tous ceux-là qui travaillaient dans des champs, tous ceux-là qui faisaient de l'or, aujourd'hui, ils sont les déplacés. Et ça affecte même l'économie de la province de l'Ituri. C'est-à-dire, celui qui avait l'activité de l'agriculture, aujourd'hui, cette activité ne produit rien. Celui qui était dans l'activité de production de l'or, aujourd'hui, il n'y a rien. Totalement, Guy Maté, aujourd'hui, la province de l'Ituri ne produit presque rien parce que ceux-là qui étaient dans les périphéries, ceux-là qui ravitaillaient l'Ituri ou bien ville à nourriture, ces gens-là sont dans des cas de déplacés. Et ça pose un problème.
Voilà, l'insécurité, c'est vrai, c'est une fatalité, mais aussi elle peut être un facteur de chance, hein, ça peut être une opportunité. Et on se rappelle ce qui s'est passé en Allemagne et aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment les économies de ces pays étaient boostées pendant une situation de crise, c'était la guerre. Et vous pensez que, aussi longtemps que la guerre, la situation d'insécurité persiste dans cette partie du pays, rien ne pourrait être fait pour essayer de booster l'économie de cette province?
Guy Maté, aussi longtemps il y a l'insécurité, on ne peut rien faire. Et l'Ituri restera dans le chaos éternel. Raison pour laquelle nous, comme communauté, l'État est responsable de tout ce qui se passe à Ituri. Parce que celui qui a le monopole de violence, c'est l'État congolais. Et ici, le gouvernement central est représenté par le gouvernement provincial. C'est lui qui, donc le gouvernement qui représente le président de la République. La province a tous les atouts de sauver la situation. Mais il y a silence de la part de nos autorités. qu'il laisse à ce que les groupes armés continuent à naître, à croître du jour au jour. Or, nous avons un gouvernement provincial qui devrait mettre fin à toutes ces situations de l'insécurité dans la province de l'Ituri.
Mais aussi, la société civile a un rôle important à jouer, hein, n'est-ce pas, que dans ces contextes difficiles, vous qui êtes la société civile ici à Ituri, plutôt à Bounia, vous pouvez, n'est-ce pas, initier les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez envisagé de faire cela?
Souvent nous sensibilisons nos jeunes, souvent nous sensibilisons nos communautés, mais Guimate, écoutez, il y a quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. L'exécutif, c'est l'autorité provinciale. Nous pouvons sensibiliser, nous pouvons tout faire, mais si l'exécutif ne prend pas ses responsabilités, comment ces jeunes doivent travailler dans de telles conditions là où il y a l'insécurité? C'est impossible.
Merci Steve Senghida, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri en charge de l'économie et finances. Votre analyse par rapport à la situation socio-économique de l'Ituri, vous avez suivi les uns et les autres ici. Le principal facteur de blocage, c'est l'insécurité. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Merci beaucoup Monsieur Guimaté. Je salue encore une fois de plus mes co-débatteurs. Pour être direct, je voudrais ici peindre un tableau de manière synthétique de la situation économique et sociale de la province de l'Ituri. C'est vrai que la province de l'Ituri a une situation ou est une province à situation de crise prolongée, malgré toutes les potentialités que nous avons, notamment sur le plan dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation forestière, vous les avez évoqués ici, bref, je ne saurais revenir là-dessus. Mais il s'est fait évidemment que cette crise socio-économique est exacerbée par la crise sécuritaire. La crise sécuritaire est venue non seulement détruire les infrastructures socio-économiques des bases, mais aussi les tissus économiques. Aujourd'hui, toutes les fermes agricoles qui jadis produisaient, faisaient de l'Ituri une destination agricole, n'existaient plus depuis la crise de 1999-2003. Aujourd'hui, toutes les unités de pêche qu'il y avait sur les lacs sont quasi inexistantes. Aujourd'hui, la société minière Sokimo, le géant itourien qui pouvait tirer la province vers les hauts, est dans une situation de paralysie indescriptible. Alors que, en même temps, les gouvernements ou l'État n'a pas beaucoup investi dans les secteurs comme de l'énergie, pouvoir constituer le préalable au développement industriel, à la mise en place de la chaîne de valeur, notamment dans les secteurs de l'agribusiness, de la conservation, de la distribution. Tous ces éléments réunis font qu'aujourd'hui, la crise socio-économique a pris une dimension indescriptible, alors qu'elle n'est pas la résultante de la crise de 2017. Elle est la résultante de la crise qui a commencé depuis les années 99, qui ont mis à mal ou qui a mis à mal l'ensemble des tissus économiques, qui a paralysé toutes les unités de production qu'il y avait, qui a fait que toutes les fermes ont fermé. Aujourd'hui, l'Ituri ne dispose plus d'une économie. Nous sommes assis sur les commerces qui s'effectuent en ville de Bounia et dans les agglomérations environnantes, alors qu'une économie n'est pas censée être basée sur les commerces. Nous ne produisons rien. Nous n'exportons rien en dehors de la province. Comment pouvons-nous dire que la province de l'Ituri peut avoir une économie reluisante? Alors, pour rentrer sur les éléments évoqués par mes co-débatteurs, je voudrais ici dire que la crise sécuritaire en soi n'est pas la raison pour laquelle nous allons occulter les insuffisances que nous, Ituriens, avons fait preuve dans la diversification de notre économie. Je vais aller par un exemple patent. Le Nord Kivu a une situation identique à l'Ituri. Mais aujourd'hui, le Nord Kivu a des unités industrielles. Le Nord Kivu a une autonomie sur le plan de la production alimentaire. Le Nord Kivu lance de grands projets d'envergure. Le Nord Kivu a un secteur d'entrepreneuriat très développé que l'Ituri. C'est du fait des efforts du gouvernement ou également de l'accompagnement de la société civile, de la population elle-même, qui a fait de sa province sa passion, sa priorité, en telle sorte que chacun considère sa province comme étant la portion de terre qu'elle possède, comme étant sa propre parcelle pour laquelle il est prêt à sacrifier, à donner le meilleur de lui-même afin de le préserver et de l'améliorer. Ça, c'est le second volet. Aujourd'hui, mon co-débatteur, M. Lucien, vient d'évoquer ici que les hommes d'affaires évoluent dans des conditions très difficiles de par l'impraticabilité de nos routes et bien d'autres. Nous en sommes conscients. Mais cela n'empêche que nous puissions diversifier l'économie pour que certains produits que nous sommes censés importer, nous puissions les produire localement. Aujourd'hui, ceux qui importent les riz, ils investissent plus que s'ils pouvaient les produire localement.
Aujourd'hui, tout le monde est dans le carburant. Combien d'opérateurs économiques se sont orientés dans les secteurs agricoles? Alors que depuis 10 ans, je n'ai pas vu un seul kilo de haricots être déversé dans la rivière parce qu'il n'y avait pas de preneurs, parce qu'il n'y avait pas de clients. Ça veut dire, non seulement notre secteur économique n'est pas encadré par la Chambre des commerces et tout le reste, mais aussi nous souffrons d'une concurrence qui ne profite pas à la province, où tout le monde veut faire ce que l'autre fait, alors que nous avons des alternatives pour pouvoir contourner les obstacles et les défis auxquels nous faisons face, pour revenir aux responsabilités de l'État. C'est vrai que l'Ituri est une jeune province. Nous n'avons pas l'histoire du Nord Kivu, de Sud Kivu, du Bas-Congo. Mais il se fait que depuis l'avènement de la province, très peu d'efforts ont été consentis pour diversifier notre économie. Nous sommes restés dans l'économie traditionnelle. Le gouvernement précédent est venu jeter les jalons, est venu planter les décors, mais n'a pas eu le temps nécessaire pour matérialiser son programme. Mais le gouvernement provincial actuel a un programme ambitieux, axé sur 4 piliers, la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État, la croissance économique et la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et la préservation de l'écologie. Ces programmes ambitieux, si aujourd'hui bénéficient de l'adhésion de la population, ils peuvent changer l'image de la province de l'Ituri dans les 5 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État, vous êtes sans ignorer que le gouvernement provincial fait de cette question sa priorité absolue. La quasi-totalité de ses ressources y sont affectées. Malgré cela, elle ne s'est pas limitée à accompagner la sécurisation, elle s'est également investie dans les secteurs de développement en améliorant tant soit peu les conditions de praticabilité de nos routes qui étaient sur le point d'être coupées. La province s'est engagée dans la diversification de l'économie en ouvrant les secteurs de partenariat public
et privé. Sujet par rapport aux routes qui constituent un facteur qui facilite, n'est-ce pas, l'activité économique. On se rappelle que le FONER s'est vu arracher les marchés d'entretien des routes au profit de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri, DGRPI. Et selon certaines sources, la DGRPI n'arrive pas à relever les défis, n'arrive pas à faire le travail que les FONER faisaient, et ça pose un problème déjà.
Merci beaucoup, monsieur Kimaté. Loin de moi l'idée d'ouvrir une brèche sur cet aspect, mais je voudrais ici que nous puissions nous rappeler de l'état de nos routes depuis 4 ans, alors que le FONER percevait 24 heures sur 24 l'argent en province de l'Ituri. Je vous informe que nous avons enregistré plus de 3 ans sans que nous ayons de rétrocession, alors que nos routes s'est coupées. Si le gouvernement provincial a lancé la guerre contre le FONER, c'était de par la responsabilité du gouverneur et du gouvernement à offrir à la population des conditions, les minimums nécessaires pouvant permettre l'évacuation, la distribution, mais aussi les échanges entre les agglomérations. Nous avons fait la guerre au FONER parce que nous étions face à la fin, à l'hécatombe à province de l'Ituri, alors que les fonds que payaient nos opérateurs économiques ne revenaient pas à l'Ituri. Aujourd'hui, nous avons gagné la bataille. La jurisprudence démontre que toutes les provinces se servent du modèle de l'Ituri pour capter ces rétrocessions à la source et pouvoir organiser l'amélioration ou encore le maintien de nos routes. Je rappelle ici, à l'occasion, que les routes nationales que nous avons en province de l'Ituri, nous avons notamment la route Mahagi-Komanda, qui d'ailleurs, moi j'appelle une route provinciale, parce que c'est une route qui ne va pas au-delà d'une province. Vous avez la RN Kassindi, elle traverse 3 provinces. Alors que celle qu'on appelle route nationale en province de l'Ituri ne quitte que Mahagi pour Komanda à l'intérieur, dans les limites de la province de l'Ituri. Alors, devrions-nous attendre ces routes être coupées, que les hommes d'affaires deviennent incapables de nous apporter le besoin vitaux, alors que le FONER est en train de percevoir l'argent? Nous avons pris notre engagement. L'article 203 de la Constitution nous les concède en démontrant que la question des routes nationales relève des matières concurrentielles. Au cas où elles ne sont pas prises en charge par le gouvernement central, la province a la capacité de le prendre en charge. Je rappelle ici que la province de l'Ituri a eu la chance d'avoir un leader qui a su mettre la barre très haut. Au-delà des plaintes que nous voyons ailleurs, au-delà de la modicité des rétrocessions, au-delà de tout ce qu'il y a comme un civisme fiscal, au-delà de la communautarisation de notre gestion, au-delà de combats internes qui nous affaiblissent au lieu de nous rendre forts, essaye de rassembler les Ituriens autour des valeurs qui puissent aujourd'hui amener que les peuples moyens puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État.
Voilà, au-delà de tout ça, il y a ces potentialités des hydrocarbures qui sont énormes. Et pourquoi le processus d'exploitation du pétrole s'est limité à la prospection? Pourquoi on n'est pas allé jusqu'à l'exploitation et à la production? comme c'est le cas en Ouganda, par exemple, très sous bien, le lac Albert.
Très bien pour cette question pertinente. L'Ituri est assise sur une mine d'or, sur des ressources importantes. Est-ce que depuis 5 ans, avons-nous vu la société civile poser la question « Que fait le gouvernement central de tous les blocs pétroliers que nous avons ?» Je n'ai jamais entendu parler. Ces blocs sont en contrat, sont octroyés à des privés, à des entreprises qui ont juste mis la main sur nos blocs, renouvellent leurs contrats, sans pour autant investir un seul rond depuis plus de 7 ans.
Et le suivi, qui doit le faire? Comme, n'est-ce pas vous, le gouvernement
effectivement,
provincial?
Effectivement, nous avons un lobby qui s'est fait. Pour votre information, plus de 4 groupes étrangers ont sollicité l'appui du gouvernement provincial pour obtenir les contrats d'exploitation de prospection sur ces blocs. Mais nous nous butons à la situation politique qui a fait que les détenteurs de ces titres-là sont ici des familles politiques qui misent sur leurs intérêts, que l'intérêt de la population itourienne. Aujourd'hui, la Soukimo est à
les
chez
familles
nous.
Sont plus puissantes que l'État congolais.
Bon, je peux arriver à cette conclusion, à vous la concéder, mais je vous informe que la Soukimo qui a vocation d'exploiter, de produire l'or, est-ce aujourd'hui la mission qu'elle est en train de mener? Non. La Soukimo a aujourd'hui comme vocation de faire vivre son comité de gestion. Aussi longtemps que le comité de gestion, le PCA, les DG, continuent à percevoir leur salaire, à avoir leur royalty, ils vous démontrent que la société était vivante. Alors que la société n'existe plus.
Merci.
Que fait la population itourienne, la société civile, les forces vives, les députés nationaux, les sénateurs, pour aujourd'hui démontrer que les personnes qui détiennent les contrats sur tous les titres de la Soukimo sont en train de participer à la mort de la province de l'Ituri, sont même aujourd'hui, je qualifierais, à la base de la situation de l'insécurité en province de l'Ituri. Parce que vous vous souviendrez, entre 2003 et 2014, la calmie que nous avions était justifiée par le fait qu'il y avait un flux financier important en province de l'Ituri. Nous avions plus de 2-3 milliards de dollars injectés par les organisations internationales. Nous avions AGK qui était en phase de prospection. Nous avions un flux financier important qui avait des répercussions sur les activités agricoles, les activités d'élevage de toutes nos populations qui pouvaient accéder aux ressources de par la production de leurs activités. Je vais clôturer pour ne pas monopoliser la parole en disant que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la situation de l'insécurité doit justifier nos insuffisances.
Merci.
En Ituri, nous avons des villages où il n'y a aucun emploi salarié, à part les écoles et les centres de santé.
Merci.
Mais la population construit des maisons, scolarise des élèves,
okay,
construit des églises et lance de grands projets alors qu'ils n'ont pas de revenus salariés payant par une entreprise.
Merci.
Bref,
merci,
si nous revenions dans les secteurs agricoles, aujourd'hui, notre quotidien s'améliorera.
Merci.
Le peu de production que nous avons ici des activités paysannes, si elle est accompagnée, elle est améliorée, nous n'aurons pas les haricots à 1 dollar le kilo.
Merci, mais vous devez aussi savoir que l'impulsion doit venir aussi de l'autorité politique.
Je vais en arriver dans la seconde partie.
Voilà. Et maintenant, on donne la parole au public, hein, les habitants de Bounia. Est-ce que vous êtes là? Vous avez suivi cette première intervention. Essayez de poser des questions. Vous avez des préoccupations, posez des questions. Et vous aurez des réponses à ces questions.
Merci, Guy Maté. Nous sommes Samy Azabo, Haricou. Nous avons suivi les intervenants, mais d'emblée, nous signalons à passer rapidement, à poser notre question, que l'Ituri district était mieux que l'Ituri province. C'est comme si nous avons connu le malheur de devenir province. J'ai deux petites questions qui vont tout droit au dircab de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Directeur de cabinet, la route Magui Komanda, si elle devient, par votre affirmation, une route provinciale, je suis désolé, parce que la frontière de l'Ituri avec le Nord Kivu se situe loin de Komanda, 75 km de Komanda, si vous ne connaissez pas bien la carte de l'Ituri. Ma question, c'est celle-ci. Quelle est la politique de votre gouvernement par rapport à la pêche sur les lacs et aussi dans le secteur agricole? Parce que hier, le lac Albert avait aussi de la pêcherie industrielle. Mais quelle est votre politique par rapport à ça? De deux, quelle est votre vraie vision sur le devenir économique de la province de l'Ituri? Parce que apparemment, on dit beaucoup, mais on ne semble rien faire. Merci.
Merci, Alibou.
Ok, merci beaucoup. Je suis Manila Salama, membre du jeune de la province de l'Ituri et étudiante à l'université de Bounia. En fait, je vais commencer d'abord à poser une question à l'opérateur économique. il avait juste dit qu'ils ont besoin des soutiens. Il avait aussi donné un exemple des routes qui se trouvent juste dans des pays frontières de la province de l'Ituri. Avant, lorsqu'on partait, par exemple, on peut faire un voyage dans un village et à Rantra, on arrive à Fataki, on se repose même pour acheter des pommes de terre telles que le président de l'INADU l'avait dit, mais actuellement ça ne se passe pas comme ça. Et il y a, ce que nous avons constaté, il y a toujours la hausse des produits au marché ici, tant que vous dites il y a l'insécurité dans la province de l'Ituri, mais nous constatons qu'il y a des opérations économiques qui se passent très bien. Merci.
Merci beaucoup Manuela Salama.
Merci beaucoup. Moi, je me nomme Ghislain Atiaboli, je suis activiste des droits de l'enfant à province de l'Ituri. Monsieur Guimaté, on ne peut pas comparer des conflits de l'Ituri à ceux du Nord Kivu. Parce qu'au Nord Kivu, je peux dire, toutes les communautés subissent des exactions de groupes étrangers qui viennent embrayer la population. Mais ceux de l'Ituri sont des conflits communautaires. Et ma question s'adresse au coordonnateur de l'INADI, qui aujourd'hui nous attendons par des voix des ondes, l'INADI, qui demande donc la démission du gouvernement provincial. Est-ce que le coordonnateur de l'INADI peut nous dire aujourd'hui si toutes les communautés ituriennes sont ensemble et l'apport de l'INADI aussi pour que la sécurité soit en Ituri, parce qu'il y a toujours M. Albert Sten qui a toujours dit que l'humanité ne sera pas détruite par ceux qui font le mal, mais par ceux qui sont en train de regarder sans rien faire. Parce qu'on ne peut pas toujours rester mettre des pressions sur les autorités tant que l'INADI ne fait rien. Aujourd'hui, on constate qu'il y a même la division C de l'INADI. Merci.
Ok, merci pour cette première partie. Nous commençons par Monsieur Drafek, hein, Lucien Mouliri. Il y a Madame Manuela Salama qui vous a posé une question.
Merci beaucoup Monsieur Guimaté. Le soutien dont nous avons besoin, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'être encadrés. Nous avons un contrat avec l'État. Le contrat que nous avons avec l'État, c'est que nous lui payons les impôts et lui, il nous donne la sécurité nécessaire, il réhabilite les infrastructures routières, il nous assure la mobilité pour que les opérateurs économiques ou les contribuables d'une manière générale vous payent des impôts et vous donnent beaucoup de recettes en termes d'impôts. Il y a des facilitations qu'il faut et c'est de ces soutiens-là dont j'ai parlé. Il faut arranger la route, ou si vous voulez la réparer. Il faut assurer la sécurité. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre. La route est mauvaise, ou les routes sont en très mauvais état. Et je vous ai dit que ce sont les courageux qui résistent même dans les domaines du commerce. Je crois qu'au lieu de jeter l'opprobre sur les commerçants en matière de prix, il fallait les applaudir parce qu'effectivement c'est encore eux, et est seul, à moins que je me trompe, qui soutiennent notre économie.
Et donc, vous voulez dire par là que l'État congolais est presque absent?
Vous le dites, vous avez des yeux, vous n'avez qu'à les utiliser pour voir. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de soutien, s'il y a insécurité, qu'est-ce que vous voulez?
Merci, merci. Il y a la question de M. Ghislain Atiaboli, je pense que c'est ça, hein? Atiaboli, il pose une question précise à l'INADI en parlant de la démission du gouvernement. Bon, évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il a quand même posé une question qui mérite une réponse. Hein?
Merci Guimaté. Je suis à la tête de l'INADI et avant que je puisse me prononcer, il faut l'accord de toutes les communautés. Et on avait une assemblée générale extraordinaire, c'était le dimanche, avec précision, c'était dans la salle des réunions Boubou-Lenga, c'est-à-dire le bureau FEC. Nous avons tenu une rencontre, et la rencontre a duré. Les gens ne voulaient pas quitter pour voir toutes les situations sécuritaires dans la province de l'Ituri, socio-économique. Et en conclusion, on a vu que rien ne marche. Au lieu que la province puisse décoller, la province est en train de régresser. Il a parlé du Nord Kivu que la communauté itourienne est divisée. La communauté itourienne n'est pas divisée. Ce sont les oiseaux de mauvais augure, les politiciens, qui cherchent à diviser les Ituriens,
Les Ituriens sont unis et resteront toujours unis. Ça, il faut retenir. Nous avons toujours dit en Ituri, il n'y a pas une guerre interethnique, sauf il y a des tensions que les politiciens cherchent pour que les Ituriens se divisent, pour qu'ils s'enrichissent avec la recherche des Ituri.
Monsieur Janvier Bine-Ekwale, je précise encore, ce n'est pas les débats d'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous réclamez la démission du gouverneur. Apparemment, vous de la société civile, vous attendez tout de l'État congolais. Mais quelle est votre part, n'est-ce pas, par rapport à tous les défis auxquels fait face la province de l'Ituri? Quel est votre apport, vous, de la société civile, hein? Vous avez suivi M. Ledif Kaba, du gouverneur, qui estime que la guerre ne doit pas être, n'est-ce pas, l'alibi pour que l'on puisse justifier le fait que l'économie de cette province ne marche pas. Il faut aussi, de la part de vous, de la société civile, un esprit d'initiative.
Guy Maté, écoutez, la responsabilité est partagée. Nous, société civile, nous avons ce qui nous concerne pour que la province puisse se développer. L'État, le gouvernement provincial a aussi à son niveau une part de responsabilité. Ici, Guy Maté, le gouvernement en place ne collabore pas avec la société civile. Et nous, nous sommes là pour accompagner le gouvernement provincial. Nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas. Mais quand on dénonce, on cherche à tout prix pour étouffer cette démarche. Or, la province devrait nous écouter, qu'ici il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la province fait sourde oreille.
Parce que la province ne vous écoute pas. À votre niveau, quelles sont les initiatives que vous avez tenté de prendre, n'est-ce pas, pour essayer, comme l'a dit M. le Diskaba, d'apporter votre contribution à la diversification de l'économie de cette province?
On a toujours apporté, Guy Maté. Je vous ai dit, dans le cas où il y a l'insécurité persistante dans la province, que ce soit l'organisation que nous allons faire, l'insécurité est là. Comment nous devons sensibiliser la population au moment où la population est en fuite? Je vous ai bien dit que la plupart de la population de l'Ituri sont dans la misère, sont dans des cas de déplacés, et sont traumatisés. Et au lieu que l'État congolais, au lieu que la province puisse prendre des décisions par rapport à la vie socio-économique de cette population, malheureusement qui paie aussi des taxes, et ces taxes ne font rien.
Monsieur le directeur de cabinet, Steve Senghida va répondre. Hein. Il y a eu des questions qui ont été posées par les habitants de Bounia. Vous avez suivi, hein, notamment la question de la route Mahagi Komanda. Ça, c'est Sami Alibou Azabo. Ok, Sami Azabo.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté. Monsieur Sami a relevé la question de la RN27 qui quitte Mahagi à Komanda. De Beni à Kisangani, c'est la RN4. La RN27 se limite à Komanda. Et que de Komanda aller sur Beni et avancer sur Kisangani constitue la RN4. Et que la RN27 se limite dans l'intérieur de la province. C'est une précision. Il a évoqué la question de notre politique sur la pêche au niveau du lac en province de l'Ituri. Je vais juste lui dire que nous venons de mettre en place, de par notre programme, l'unité de surveillance des activités de pêche sur le lac Albert. Cette unité a pour mission de s'assurer de la bonne réglementation, parce que nos services opérant sur le lac ont montré leurs limites. Nous avons découvert que l'implication était non seulement de la société civile au travers de la FEC, qui alimente la pêche illicite, qui amène les filets prohibés, qui achète le poisson interdit de pêche, qui, d'une certaine manière, fait la promotion de la mauvaise exploitation du lac. Nous, on s'est dit, nous devons aller au-delà de cette complicité, de cette complaisance, en mettant en place l'unité de surveillance qui est déjà installée et qui commence son travail au courant de ce mois de décembre.
La vision du gouvernement sur le devenir économique de la province.
Sur le devenir économique de la province, je vais être large. D'abord, la province de l'Ituri, je venais de dire ici, dispose d'un programme ambitieux. Si vous prenez aujourd'hui les volets, par exemple, de la diversification économique, nous sommes en train de quitter les secteurs traditionnels de perception de taxes par la régie pour aller dans le partenariat public-privé afin de ramener des redevances supplémentaires que la province n'a jamais obtenues depuis que le Congo est Congo. Ça veut dire la province privilégie la mise en place de projets en partenariat public-privé. Nous allons construire des parcs à bois dans les secteurs de l'environnement. Nous allons construire des plateformes logistiques au niveau de frontières pour ramener des ressources supplémentaires. Nous allons comme ça ériger des installations, des entrepôts à sec et à liquide au niveau de nos frontières, lesquelles installations la province sera partie prenante. Pour preuve, nous venons de créer la première société de portefeuille provincial Ituri Holding qui a la vocation d'être l'interface avec tout le partenaire du secteur privé. Le protocole d'accord.
Comment vous expliquez, M. Senghida, je ne vous interromps pas, mais comment vous expliquez le fait que le conseiller de la FEC qui est ici présent estime que le gouvernement provincial est absent dans ces secteurs et vous accuse même de ne pas remplir, n'est-ce pas, votre part des contrats.
Je voudrais ici.
L'AFEC vous paye des taxes.
Je voudrais
mais
ici.
Elle ne voit pas ce que.
Je voudrais ici signifier que les taxes que paye l'AFEC sont orientées sur des axes. Il y a les taxes à caractère provincial et national. Sur les taxes à caractère national, ils savent que la province ne reçoit aucune rétrocession. Sur les taxes à caractère provincial, aujourd'hui, nous-mêmes sommes complices de la corruption, de la fraude, du détournement qui paralyse l'économie de la province. Le même secteur qui nous accompagne de la FEC participe d'une certaine manière à cette corruption avec nos agents, en oubliant que cette corruption va leur barrer la route dans les retours d'investissement.
Et donc, vous accusez mutuellement.
Nous n'accusons pas, nous démontrons les faits. Troisièmement, je rappelle ici que le gouvernement provincial ou l'État n'a pas vocation de distribuer de l'argent aux commerçants, mais de créer un environnement favorable à l'épanouissement des activités économiques. Si aujourd'hui les gens sortent les marchandises en Chine et jusqu'à Bounia, ça veut dire que le gouvernement fait un travail. Si aujourd'hui les gens amènent les produits, aujourd'hui dans les secteurs agricoles, nous exportons les cacao, ce qui n'a jamais été fait dans le passé, le secteur agricole est en plein essor, c'est parce que le gouvernement apporte les conditions nécessaires afin de faciliter aux opérateurs économiques de
pourquoi
pouvoir
évoluer. Pourquoi le gouvernement provincial refuse d'écouter les propositions de la société civile?
L'occasion ici, nous avons le public de l'Ituri. Nous allons sortir de cette salle pour chercher ces propositions qui ont été soumises au gouvernement provincial et contre lesquelles nous nous sommes éloignés sans pour autant les prendre en compte. Je vous rappelle que le gouverneur de province a investi l'essentiel de nos ressources dans les dialogues intracommunautaires, dans les consultations. Il rencontre les forces vives, la FEC. Il ne passe pas une semaine sans que le gouverneur ou le gouvernement interagissent avec les forces vives. Donc c'est un argument qui n'a pas sa place sur un débat.
Et donc, monsieur Janvier Bine Kwale n'est pas au courant de tout ça.
Oui.
Nous allons donner une fois de plus la parole au public pour que le public de Bounia puisse faire des propositions pour booster l'économie de cette province. Hein. Bounia, est-ce que vous êtes présent? Bounia, faites des propositions parce qu'il faut booster l'économie de cette province. Faites des propositions.
Oui, c'est M. Thomas Kawayou. Ma proposition, oui. À travers le fonds de la promotion de l'industrie, d'abord aider les opérateurs économiques à devenir des industriels. C'est-à-dire, les jeunes qui grandissent, qu'ils aient déjà cette idée que non, la production de la richesse dont dépend le développement de notre nation, de notre pays, c'est d'abord l'industrie. Et à travers cette industrie, on peut, n'est-ce pas, avoir quelque chose qui peut aider la jeunesse. S'il n'y a pas d'industrie ici, nous ne serons que des travailleurs, des industriels étrangers. Et donc, on n'a pas d'industrie. On n'a pas non plus des industriels ici. Merci.
Merci Thomas Kawayou.
Oui, je suis Christian Chaouri, jeune leader de la province. Je propose que le gouvernement provincial puisse mettre en place une politique qui va faciliter la décentralisation totale de tous les services publics qui récoltent nos fonds et qui échappent des fois à la gestion. Mais aussi, je propose au gouvernement provincial de pouvoir respecter les accords signés avec ses partenaires, soit certaines entreprises, pour que ça permette à ce que la population ne puisse pas barrer la route. Parce qu'actuellement, s'il y a l'incivisme, c'est une conséquence de non-respect des conventions. Mais aussi, je m'en vais demander au gouvernement provincial de pouvoir mettre en place le mécanisme pour arrêter la fraude des exonérations, des fois entretenues par eux-mêmes et par des officiers et par des autorités. Je m'en vais peut-être, permettez que je donne un peu la dernière proposition. La politique de pouvoir vérifier tous ceux-là qui sont en train d'exploiter d'une manière illicite nos ressources et des fois sous couverture de ce même gouvernement. Enfin, nous demandons à ce qu'il y ait une politique de ce même gouvernement provincial dans le but de pouvoir bloquer la route à l'importation de certains produits que nous avons ici localement pour que cela ne puisse pas être consommé ici. Merci.
Merci beaucoup, Christian Chaouri.
C'est Josquat Kadinda, je suis journaliste. Je voulais que pour éviter les cercles viciés de condamnation entre FEC et gouvernement, que la FEC renforce les capacités de nos opérateurs économiques. J'ai eu l'impression que nos opérateurs économiques sont figés, ils n'innovent pas, ils se suivent dans ce qu'ils font. Parce que l'exemple montre qu'une fois avec l'ancienne guerre, quand ils sont partis en Ouganda et ailleurs, ils sont rentrés, ils ont fait des stations, ils ont construit des choses parce qu'ils ont eu l'exemple d'ailleurs. Donc ils font un renforcement de capacité. Que le gouvernement provincial arrête avec ses opérateurs économico-politiques qui font concurrence déloyale à ceux qui payent des taxes. Il y a des politiciens, des chefs militaires qui exploitent licitement, comme on l'a dit ici, et qui ne payent rien. Et je voulais dire à la société civile représentée par l'INADI de ne pas seulement s'occuper de déclarations politiques. Il faut faire aussi des déclarations économiques et sociales. Et ce débat va se terminer sans qu'on ait pas parlé de l'emploi. Ça me fait mal parce que c'était économique et social. Les opérateurs économiques de l'Ituri font les business pour eux-mêmes. Ils ne créent pas d'emploi. Il ouvre sa boutique, il emploie sa femme, son petit frère, ça s'arrête là. Ils ne font pas de société pour employer la jeunesse.
Merci. Nous allons donc tenter de répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Monsieur Lucien Mouliri.
Merci beaucoup, Monsieur Guy Maté, pour ces questions et propositions du collègue Joska. Je crois que la FEC crée des emplois. Il n'est peut-être pas informé, mais il n'y a aucune entreprise qui peut fonctionner, une entreprise de deux personnes. Vous êtes le patron et votre épouse ou votre petit frère, c'est pratiquement les seuls travailleurs que vous avez. Je crois que non.
Parce que vous créez des emplois, est-ce que vous avez des statistiques? Joska Tanyina a besoin de ces éléments.
Malheureusement, il s'est fait que nous sommes arrivés ici invités sans savoir exactement si cette question serait touchée.
C'est-à-dire que si... On retient que la FEC crée des emplois.
La FEC crée des emplois et ça peut être prouvé. Les preuves, nous les avons. Et si Joska a besoin de preuves, nous les lui fournirons.
Ok.
À part ça, il y avait une autre question. Le renforcement des capacités, je crois qu'il peut venir de la FEC, tout comme il peut venir du côté de l'État aussi. Ça, c'est très important. On apprend tous les jours.
Mais est-ce que la FEC fait sa part?
Non, la FEC fait sa part, parce que nous ne sommes pas que dans les commerces.
Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour renforcer les capacités des opérateurs économiques?
Nous avons des matinées où nous essayons un peu d'apprendre aux gens comment il faut gérer. Nous nous arrangeons à notre manière. Lorsque nous avons posé un diagnostic et que nous trouvons que nous avons tel ou tel autre problème, nous essayons un peu de travailler dans le sens d'apprendre aux gens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on apprend aux gens comment ils peuvent gérer, comment ils peuvent correctement se comporter sur le plan fiscal.
Okay.
Parce que si les différents impôts sont payés, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que nous sensibilisons nos membres pour dire qu'écoutez, payez les impôts parce que le pays ne peut vivre sans qu'il y ait des impôts.
Merci. Merci. Steve Senguida, beaucoup de questions vous ont été posées, mais essayez de vous résumer parce qu'on n'a pas assez de temps.
Je vais aller vite. Je rappelle ici que la sécurité est non seulement l'affaire du gouvernement central, mais de nous tous, y compris la population, parce que l'implication de nous tous peut amener à des résultats probants. Deuxièmement, je voudrais démontrer que le gouvernement provincial met en place une approche ou un climat favorable qui puisse permettre à la province de diversifier son économie. Dans les secteurs miniers, nous avons lancé un programme d'identification de tous les exploitants, les orpailleurs, qui sont évalués à plus de 400 000 et dont les retombées seront directes sur le budget de la province. La lutte contre la corruption, nous en faisons notre cheval de bataille. La preuve, elle est là, je ne saurais pas évoquer ici. La province s'est dotée d'une carte postale qu'elle n'a jamais eue depuis que nous existons en tant que province, qui présente l'ensemble de nos potentiels, qui vend l'image de notre province, les secteurs touristiques, environnementaux, de la pêche, toutes les ressources que la province possède. Aujourd'hui, elles sont coulées dans un document que nous avons appelé carte postale de la province de l'Ituri et que nous pulvérisons sur le monde entier afin que nous lancions le message à la communauté internationale de venir investir en Ituri en tant qu'une province porteuse d'espoir. Troisièmement, Nous avons créé les corridors nord, qui est une démarche soutenue par la Banque mondiale. Ça veut dire connecter la route venant de Mombasa au Kenya sur la frontière de l'Ituri en passant par Aru jusqu'à atteindre Bukavu. C'est le projet qui est sous examen avec la Banque mondiale de par l'initiative du gouvernement provincial. Pour ce qui est du secteur industriel, le secteur industriel est tributaire du développement de l'électrification. On ne peut pas avoir des industries sans qu'on ait du courant électrique. Et aujourd'hui, la province a organisé la première table ronde énergétique qui a donné naissance à la première société opérateur qui vient de s'installer à Ituri pour pouvoir améliorer la desserte en énergie électrique. La société va lancer la première centrale photovoltaïque d'ici 8 mois, parce qu'il faut au moins 6 à 7 mois. De deux, nous n'en avions pas. De deux,
applaudissez pour cet effort du gouvernement provincial.
De deux, nous faisons en sorte que tous les investissements qui viendront à Ituri soient accompagnés par le gouvernement provincial afin de rassurer les partenaires sur la sécurité et la garantie de leurs investissements. Je vais citer en disant que les secteurs, par exemple, que je n'ai pas cité, les secteurs agricoles, je reviens là-dessus de l'agriculture, la province est inscrite sur la voie de la promotion du secteur agricole. Déjà, le territoire de Mambasa prend les dessus sur la production de café et ainsi que de cacao dans les Mahagi. Plusieurs coopératives ont été créées et dont le processus d'exportation a commencé. Pas plus tard que le lundi, nous venons d'exporter le deuxième stock de 24 tonnes de cacao pour la Belgique, ce qui est une initiative à encourager. Je retiens ici et je confirme que l'insécurité ne doit pas occulter notre volonté à développer notre province.
Vous l'avez dit.
Les Nord qui voient les courants aujourd'hui, Beni Boutembo, Beni a la chocolaterie moderne aujourd'hui, Brassimbaïda Beni avec les ADF à côté, Beni a l'INERA, à tout ce qu'ils ont avec les conditions sécuritaires difficiles. Nous voulons que la province de l'Ituri prenne les modèles, puisse se lancer dans la diversification de l'économie, merci, puisse combattre la fraude et la corruption, merci, mais aussi nous appelons la société civile à faire sa part.
Merci.
Sa part, ça veut dire dénoncer les corrupteurs, oui, dénoncer les voleurs, dénoncer les auteurs de fraude. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils font route ensemble.
Merci. Monsieur Lucien, l'Afrique a quand même une grande part de responsabilité aussi dans ce qui s'est fait dans cette province. Hein. Monsieur Ledith Kaba a rappelé ce qui se passe au Nord Kivu. Hein. Aujourd'hui, la ville de Goma, c'est l'une des belles villes de ce pays. Et c'est le fait de l'AFEC Nord Kivu. Est-ce que vous ne pouvez pas tenter d'emboîter les pas à l'AFEC Nord Kivu?
Merci beaucoup, monsieur.
Et on peut en profiter aussi, hein, vous pouvez aussi en profiter pour conclure, hein, et proposer, faire une proposition pour booster l'économie.
Ok, merci, monsieur Maté. L'AFEC fait déjà grand chose. Et s'il y a des propositions dans ce sens-là, elles sont les bienvenues pour aider l'AFEC à faire davantage. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que comparaison n'est pas raison. Les conditions et les facilités du Nord Kivu ne sont pas les conditions et les facilités de l'Ituri. Tout ce que nous pouvons demander ici, c'est que nous avons besoin d'être accompagnés, d'être encadrés, pour que nous puissions faire le travail comme il se doit et que nous puissions développer l'Ituri.
Merci
voilà.
Beaucoup. Merci, je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Janvier Bine Ekwale, qu'est-ce que vous proposez pour que l'on puisse booster l'économie de la province de l'Ituri? Ça sera sur votre conclusion.
Monsieur Guy Maté, avant de donner la conclusion, je voudrais dire au directeur de son excellence, monsieur le gouverneur, que tout ce qu'il vient de dire, les quatre piliers, notre gouvernement provincial est expert dans les ventes des illusions. Tout ça sont des illusions.
Non, qu'est-ce que vous proposez, vous, de la société civile,
parce que
vous proposez
pour il a parlé de corruption, il a parlé de détournement, mais c'est la province qui est le premier détourneur. Si on se réfère, où sont allés les 12 lingots d'or qu'on avait saisis au niveau de ça fait quoi? Ça fait quoi pour la province de l'Ituri, les 12
voilà
lingots?
Monsieur aujourd'hui, vous en tant que société civile,
nous allons travailler comme nous travaillons toujours. Nous proposons à ce qui est d'abord la sécurité. Sans la sécurité, on ne fera rien, Guy Maté. D'abord la sécurité. Et le gouvernement provincial va montrer sa capacité à donner au peuple iturien la paix. Et on doit imposer cette paix-là. Il a parlé de dialogue, mais souvent, on a fait des séances dans la salle polyvalente de 5 à 20 francophones. Mais c'était des intimidations.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Steve Senghida. En une phrase, votre conclusion, on va finir, on va clôturer avec l'émission.
Ma conclusion est que nous appelons les fils et filles de l'Ituri à voir à côté avant de pouvoir se prononcer, parce qu'en se servant peut-être de l'expérience d'ailleurs, nous pourrons améliorer ici. Parce que sans repère, nous ne faisons qu'aller droit contre les murs. Toutes les initiatives aujourd'hui démontrent que la population, nous, Ituriens, ne sommes pas prêts à accepter le changement, nous ne sommes pas prêts à accepter les renouveaux, nous voudrions demeurer dans les statico et résister au changement. Le gouvernement provincial a mis en place un ambitieux programme, lequel programme sollicite l'adhésion de la population iturienne.
Et donc vous demandez à ce qu'on puisse imiter les bons exemples.
Les bons exemples, voilà, ça peut nous amener à la réussite.
Merci, c'est la fin de cette émission spéciale, le dialogue entre Congolais à Bounia, avec la population de Bounia. Merci beaucoup, vous, habitants de Bounia. Merci de votre participation à cette émission. Et merci à Radio Kapi Bounia, Jean-Claude Loki, Martial Kizabiamungu, Charlie Omba, Ezekiel Mouzalia, Jean Onda et à toute l'équipe Dialogue en Congolais et de Kinshasa, Kéline Kouté, Donat Madimba et Bob Landou. À la présentation, Guy Maté, sous la supervision de Jean-Toby Okala. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Kapi.